Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Après les violences survenues lors d'un meeting d'Éric Zemmour, désormais candidat raciste, xénophobe, sexiste, homophobe, ce candidat donc qui a marqué la pré-campagne de 2022, il n'est pas inutile de remettre sur le métier un vieux débat sur les possibilités de résurgence d'un fascisme contemporain. Pour en discuter dans cette émission des Voix du Pouvoir, je reçois trois invités. Ludivine Bantini d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne à l'université de Rouen, vous avez coécrit avec Hugo Paletta, qui est déjà venu chez nous, Face à la menace fasciste. C'est un livre en forme d'alerte aux éditions textuelles. Et à vos côtés, pour discuter de l'ouvrage et des meilleures façons de nommer et de caractériser cette conjoncture politique, je reçois également le philosophe Jean-Yves Prancher, qui enseigne à l'Université libre de Bruxelles, et également le politiste Laurent Jean-Pierre, qui lui enseigne à l'Université Paris 1. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Ludivine, je commence avec vous. Sur ce livre en forme d'alerte, je le disais, sur la façon dont le terrain est en train d'être préparé au fascisme. Et de fait, on est beaucoup à se sentir, au gré de l'actualité, souvent sidéré, souvent le mot qu'on emploie entre nous, sidéré face à des transgressions, des digues qui ont l'air de sauter les unes après les autres, dans les propos, dans les actes, de la part de beaucoup de responsables politiques qui sont censés incarner une forme de modération. Et vous avez choisi de parler dans le livre d'ensauvagement de la part de cette classe dirigeante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur les origines et le sens que vous donnez à ce terme dans le livre? Et ça permet d'expliquer aussi le sens de sortir ce livre à ce moment-là et avec ce style-là, très, très alarmiste pour le coup.
Oui, ben merci beaucoup. En effet, quand les éditions textuelles nous ont commandé l'ouvrage, c'est-à-dire il y a un an, on était déjà très inquiets devant cette situation. Et chaque jour apporte confirmation également au titre qu'on a choisi. On avait un peu hésité face à la menace fasciste. Ben, j'avoue qu'il y a encore quelques années, je n'aurais jamais employé ce terme-là. Et c'est ce qu'on dit d'emblée, c'est on n'emploie pas ce terme à la légère. L'ensauvagement, oui, on sait que c'est un terme qui est devenu comme un déversoir du débat politique et médiatique à droite, mais dans une droite très large et à l'extrême droite, hein, dans toute sa diversité, l'ensauvagement supposé des populations, de quartiers populaires. Et donc on a souhaité retourner ce stigmate et revenir à l'emploi qu'en faisait Aimé Césaire à propos de la colonisation. Dans un texte très beau, très fort, vraiment important, de 1950, Aimé Césaire décrit la violence sans nom de la colonisation, les viols, les pillages, les massacres, les spoliations, et l'indifférence d'une grande partie de la population européenne face à ces violences. Et il explique que dès lors, la colonisation décivilise celui qui colonise, finit par le brutaliser en fait, et dès lors l'ensauvager. Et donc c'était aussi pour lui d'ailleurs, bien sûr, une manière de retourner le stigmate du sauvage, hein, pour dire que voilà, l'ensauvagement, c'est celui du continent européen. Et c'est vrai que c'est un terme qui nous paraît rendre compte en fait à la fois d'une situation structurelle exacerbée par sa violence, une violence un peu au bulldozer, au rouleau compresseur, notamment dans cette extrême droitisation dont on va pouvoir parler, qui nous autorise, nous semble-t-il, à évoquer une fascisation. Et par ailleurs, à nos yeux, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus structurel encore, c'est-à-dire un système économique qui n'a aucune morale et dont on ne peut pas se cacher de pouvoir faire légitimement la critique, qui est le capitalisme. Et donc, voilà, à nos yeux, le capitalisme, il a toujours déjà été ensauvagé, ne serait-ce que par le fait de ses origines, justement colonisatrices et elles-mêmes spoliatrices.
Alors, face aux dirigeants en place, dont vous décrivez l'ensauvagement, il y a des candidats d'extrême droite pure, si j'ose dire. Celui qui a défrayé la chronique, je le disais en introduction, qui bénéficie de la complaisance de pas mal de médias, il faut bien le dire, c'est bien sûr Éric Zemmour. Je fais un petit tour de table, peut-être en commençant par vous, si vous voulez bien, Laurent Jean-Pierre, sur Éric Zemmour. Et quelle est la meilleure manière, la question se pose d'ailleurs en termes journalistiques, sur quel adjectif on lui donne à ce candidat, au-delà de dire d'extrême droite, est-ce qu'il y a des adjectifs plus précis qui permettent de caractériser sa candidature, son identité politique?
Bon, il y a un débat sémantique sur la question du fascisme,
on va y venir
du néo-fascisme, du post-fascisme, etc. C'est peut-être pas le moment de l'aborder. Et puis après, Pour moi, le qualificatif qui sied le mieux à Éric Zemmour, c'est le qualificatif de démagogue. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment Éric Zemmour, parce qu'au fond, c'est.
Mais qui apparaît un peu faible.
C'est un symptôme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce qui a été évoqué par Ludivine Montigny à l'instant, c'est-à-dire comment, les idées d'extrême droite sont devenues des idées dominantes dans l'espace public. Comment aujourd'hui, il y a un bloc, selon certains sondages, majoritaire, qui adhère, à des propositions d'extrême droite ou de droite radicale en France, qui est un bloc supérieur donc à 50%. Et donc ça il faut déjà le. Et Zemmour, c'est simplement effectivement l'écume de cette conquête de longue durée qui a été faite d'abord du point de vue idéologique pendant 30 ou 40 ans, ensuite grâce effectivement au concours de différents médias. Et au fond, il y aura d'autres Zemmour. Là, d'une certaine manière, il y a juste un moment Zemmour, mais je doute absolument pas que ce soit tout à fait l'écume au fond d'une extrême droitisation générale qu'on voit pas simplement d'ailleurs en France et qu'on voit dans d'autres pays, dans d'autres démocraties contemporaines. Et là aussi, il faut peut-être décentrer un peu le regard de la France, c'est-à-dire regarder au fond la tendance des démocraties représentatives actuelles à devenir de plus en plus autoritaires, tout en conservant effectivement un certain formalisme juridique issu du libéralisme historique. Donc ça c'est un point à mon avis beaucoup plus général.
La question d'hybridation entre autoritarisme et démocratie libérale. Ah. On va y venir. Je vous interromps pour continuer le tour de table avec vous, Jean-Yves Franchère. Parfois, y compris sous certaines plumes de Mediapart, on a pu parler de néopéténisme. Est-ce que c'est un terme qui vous paraît approprié ?
Oui, ça me semble assez juste. C'est-à-dire pour Zemmour, je parlerai de nationalisme autoritaire et effectivement de néopéténisme, mais avec une aile qui l'accompagne et dans laquelle on peut observer des phénomènes, des processus de fascisation. Là, c'est un point avec lequel je suis d'accord avec l'ouvrage. Ça me semble même un concept bien meilleur que celui d'ensauvagement qui, à mon avis, porte beaucoup trop d'équivoques et peut s'étendre à beaucoup trop de phénomènes et qui est représenté par ce que Mediapart a appelé les youtubeurs de la haine. Mais ce que je dirais, ce qui me frappe, c'est que Zemmour, disons, sa particularité ou sa spécificité, c'est qu'il est situé clairement à droite, avec un programme de droite ultralibérale et clairement à l'extrême droite. Mais on ne doit pas négliger qu'il est en même temps l'héritier de ce que Corcuff appelle la grande confusion et qu'il est l'héritier également de points de départ de processus de fascisation qui ont été très présents dans toutes sortes de classes populaires, qui ont diffusé à gauche. Et je pense qu'il faut rappeler ici qu'avant lui, il y a eu un premier processus de fascisation très net qui a été porté par Dieudonné, par exemple, et par Soral. Or, Dieudonné a reçu une grande écoute auprès d'une partie de la gauche, y compris radicale. On pourrait penser également à des figures comme Bricmont, qui tient des propos crypto-négationnistes, qui a fait l'éloge de Forisson. Et je pense qu'ici, on a un problème qui est qu'il y a eu à gauche un véritable manque de réaction, une véritable incapacité à tenir les digues. Alors du côté droitier, pseudo-républicain, on a fait sauter la digue des droits humains, des droits de l'homme et de la citoyenne, disons. Mais à gauche, on n'a pas pris garde à un certain nombre de phénomènes. Et puisque Ludivine Montigny parlait d'indifférence, on a été d'une grande indifférence. Par exemple, lorsqu'il y a eu les meurtres antisémites de Mohamed Merah, il y a eu un certain silence. Il y a eu un certain silence à gauche. Face à Bachar el-Assad, il y a eu un immense silence à gauche. Face au génocide des Ouïghours, il y a un grand silence aussi. Face à Poutine, enfin, il suffit d'aller voir du côté de Mélenchon, il y a un grand silence. Et alors qu'à gauche, il y a eu des résistances tout à fait légitimes au discours islamophobe, on a laissé circuler, par exemple, des thèmes comme celui du philosémitisme d'État, qu'on n'a pas condamné, qui est exactement, du point de vue de son fonctionnement logique et imaginaire, la même chose que le thème de l'immigrationnisme des élites remplacistes qui circule beaucoup à l'extrême droite. Et on notera d'ailleurs qu'aux États-Unis, où les processus de fascisation sont encore plus marqués, l'extrême droite réalise cette synthèse. À Charlottesville, des militants armés défilaient en disant « Juifs, vous ne nous remplacerez pas ». Bon, et si on lit Zemmour, en fait, Zemmour est aussi l'intérêt de ce thème dieudonniste. Il rend hommage à Dieudonné. Et si vous lisez ce qu'il dit du privilège juif dans les suicides français et de la domination des juifs sur l'État français, de la façon dont ils ont droit à un traitement de faveur tout en n'étant pas des patriotes puisque liés à Israël et liés à New York, vous voyez qu'il y a là des discours qui ont eu une espèce de surface de diffusion dans une espèce d'atonie et qui, à mon avis, ont contribué à la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Mais pour le coup, ces personnalités d'extrême gauche que vous nommez ne sont pas dans la campagne de Zemmour. Les réseaux sont là.
Zemmour, on est dans le cas de l'extrême droite. Mais disons que toute la difficulté, c'est est-ce qu'on parle, disons, c'est tout le problème de ce qu'on appelle l'ensauvagement. Est-ce qu'on parle du passage à la violence, et donc d'une radicalisation d'extrême droite à laquelle on est en train d'assister et qui signale que des passages à la violence sont concevables. C'est ce qui se voit du côté de Papacito, des vidéos YouTube, etc., où des seuils sont franchis. Et on sait d'ailleurs que les services de renseignement sont très inquiets des possibilités d'un terrorisme d'ultra-droite dont la dangerosité semble être en train de devenir équivalente à celle du djihadisme. Bon. Donc il y a ça, mais il y a aussi la nécessité de construire des digues intellectuelles, morales, etc., par rapport à un certain nombre de discours en circulation et qui ont pour effet de détruire nos capacités de résistance ou de normaliser des types de discours qui ne doivent pas être normalisés.
D'accord. Ludivine Montigny, même question sur Zemmour, ce qui vous permet aussi de réagir par rapport à ce qui a déjà été dit.
Oui, donc en effet, je pensais intervenir d'abord et avant tout sur la question que vous avez posée sur Zemmour, mais je dois quand même m'inscrire en faux par rapport à ce que vient de dire Jean-Yves Franchard, parce que là déjà, il y a une espèce de grand mélange, on parle de la gauche radicale, de sa supposée indifférence, voire complaisance à l'égard de l'antisémitisme et des meurtres antisémites, une supposée complaisance à l'égard de Dieudonné, enfin je trouve que c'est absolument faux, donc je m'inscris en faux. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse et je pense que ça part mal si on mélange un peu tous ces enjeux qui sont pourtant très graves, très sérieux. Voilà. Donc je pense qu'on va revenir aux causes structurelles de cette hégémonie d'extrême droite, mais peut-être qu'on peut en effet continuer à essayer de caractériser avec nos divergences d'appréciation, ou en tout cas nos nuances, la personnalité d'Éric Zemmour, moi je pense qu'on peut vraiment le caractériser de fasciste. Et je crois en effet que le terme de démagogue, il est un peu trop faible, parce que la démagogie en politique, elle est extrêmement répandue. En revanche, il s'agit d'être quand même très précis dans la caractérisation politique d'un Zemmour. Alors récemment, beaucoup d'observateurs et observatrices ont relayé l'analyse qu'avait faite du fascisme Umberto Eco, avec différentes caractéristiques, notamment le rapport à la force, à la guerre, à la virilité, au mépris des faibles, évidemment au racisme structurel, à la xénophobie. Ce sont autant de caractéristiques, en effet, qu'on peut tout à fait retrouver chez Éric Zemmour. Dans l'analyse d'Umberto Eco, il me semble qu'il manque quand même un élément pourtant fondamental dans le fascisme ou le néofascisme, c'est le rapport au capitalisme et le rapport dès lors au mouvement sociaux, mouvements qu'on a longtemps appelé le mouvement ouvrier, aux organisations syndicales, à la gauche organisée dans toute sa diversité. Le fascisme, c'est aussi une manière de répondre et de combattre ce mouvement ouvrier, toutes ces perspectives de lutte contre le capital de manière générale, qu'il s'agisse d'avoir une perspective réformiste ou révolutionnaire. Et ça, je pense qu'on le trouve également chez Zemmour. Il est tout à fait caractéristique de ce que Gramsci appelait les symptômes morbides du capitalisme, d'un moment de crise d'hégémonie où le pouvoir en place ne parvient plus véritablement à gouverner par le consentement et où dès lors il gouverne surtout par la répression, où il étend considérablement justement la sphère de la banalisation de la violence. Et dès lors, Zemmour, quand il nous dit par exemple que, avec une condescendance extrêmement virulente, que la CGT ça n'existe plus, les syndicats ça n'existe plus, ils ne comprennent plus rien puisqu'il n'y a plus de clivage de classe, il y a un clivage d'identité raciale, il y a un clivage d'identité nationale, ben là on retrouve une autre caractéristique du fascisme. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot, parce que ce qui nous fait peur, c'est plutôt la situation que les mots pour la décrire.
Alors oui, justement, sans verser dans la querelle terminologique, mais on essaye d'avoir les bons mots pour désigner de la bonne façon la période, cette question de Zemmour, elle permet d'aller au fond de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, ce mot de fascisme ou ce mot de fascisation, est-ce qu'ils sont appropriés à l'ère qu'on vit et la question qu'il y a derrière, évidemment, c'est est-ce qu'on peut extraire le fascisme de son enracinement dans les années 30? C'est-à-dire, une fois qu'on a les images des chemises noires et des gens qui marchent au pas de voix, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a les caractéristiques du fascisme, en tout cas certaines d'entre elles, peuvent retrouver une certaine existence, une certaine réalité dans la société, dans nos sociétés des années 2010, des années 2020. Et donc si oui, quels sont ces attributs-là qui peuvent se retrouver sous d'autres cieux, sous d'autres dans d'autres temps que celui de l'Italie ou de l'Allemagne des années 20 et 30. Je ne sais pas qui veut se lancer.
Simplement dire un mot, réagir. Je ne voulais pas me contenter du mot démagogue, hein, effectivement. Non, mais je veux aussi, placer Zemmour dans un plan plus général de tournant autoritaire des démocraties et avec lequel je pense tu seras d'accord. Et d'autre part, sur le terme de fascisme ou de néo-fascisme, moi, j'ai absolument aucun problème. Il y a des traits fascistes dans les idées de Zemmour. Effectivement, est-ce qu'on est dans une configuration historique qui est la même que celle du fascisme des années 20-30. Bon, là, j'ai quelques réserves.
Parce que les historiens disent souvent, outre la violence, ils disent souvent, voilà, c'est des sociétés brutalisées par la Première Guerre mondiale. Donc, il y a tout un contexte qui est évidemment
tout
pas
à fait,
le même aujourd'hui.
Le contexte de brutalisation et même les organisations qui soutiennent aujourd'hui les idées ou des traits fascistes idéologiques n'ont pas du tout la même puissance que celle des années 20-30. Donc, de ce point de vue-là, moi, je m'intéresse plutôt effectivement à des traits fascistes, hein, des traits autour du racisme, autour du nationalisme, on en a parlé, autour du conservatisme morale, autour du virilisme. Là, il y a un ensemble de traits fascistes qui sont effectivement portés par Zemmour, mais pas seulement. C'est là aussi que, à mon avis, on aurait tort de simplement se concentrer sur la figure de Zemmour. On a parlé tout à l'heure des digues. Alors moi, je suis pas du tout non plus d'accord avec l'idée que effectivement la gauche radicale a laissé passer les idées de Zemmour. Ce qui m'intéresse par contre, c'est comment effectivement un certain nombre de forces de gauche, plutôt de centre-gauche, ont accepté toutes les thématiques de l'extrême droite dans les dernières années. Ça, c'est un point absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est pas simplement les digues à droite qui ont sauté, c'est les digues au centre gauche. Quand il s'agit de défendre la police, quand il s'agit de critiquer l'immigration, on le voit avec certains propos de Fabien Roussel, on le voit avec évidemment certains propos d'Arnaud Montebourg. Ça vaut effectivement pour l'islamophobie, ça vaut pour l'anti-antiracisme qui est devenu une sorte de doxa dans une grande partie de la gauche. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a d'une part une fascisation des esprits qui existe beaucoup plus largement et bien au-delà du zémorisme, si on veut l'appeler ainsi, et qui, à mon avis, va laisser des traces beaucoup plus profondes, qui vont complètement dépasser le succès ou l'échec de Zemmour à cette candidature. Et c'est ça qui doit, à mon avis, nous interroger. Donc ça, c'est un premier point. Après, est-ce qu'on peut comparer avec les années 20-30? Moi, je pense qu'effectivement, on gagne à parler plutôt de néo-fascisme et de sélection de traits fascistes, parce que tout ce qui concerne, disons, les infrastructures sociales du fascisme, on le retrouve pas du tout aujourd'hui dans la configuration actuelle. On a des réseaux relativement faibles, avec, malgré tout, quelques forces issues de l'armée, issues de l'Église, on l'a vu quand on regarde l'entourage de Zemmour à l'heure actuelle ou d'autres. Mais on n'a pas du tout la même force de frappe ou la même adhésion de masse, disons, que celle qui existait dans les années 20-30.
Jean-Yves, sur ce sujet quand même, j'aimerais poursuivre parce que certains se disent, mais au fond, qu'est-ce qui fait la singularité d'une proposition fasciste au sein des extrêmes droites qui sont plurielles, qui ont plusieurs courants et du coup, comment on reconnaît ce qui est fasciste et ce qui ne l'est pas, alors qu'on vit quand même avec des extrêmes droites qui sont fortes électoralement depuis les années 80, en tout cas en France.
Oui, alors plusieurs choses pour qu'il n'y ait pas vraiment. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je maintiens quand même qu'il y a un problème dans le rapport qu'a une partie de la gauche à la Syrie, à la Chine, à la Russie, où nous assistons à des processus où vraiment, enfin, il y a des pratiques génocidaires, des massacres de masse, etc. Et la gauche n'est absolument pas au clair là-dessus, et ça me semble très grave. Je veux dire, historiquement, le fascisme aurait pu être défait si le Front populaire français avait soutenu le Front populaire espagnol. La dimension internationaliste de l'antifascisme me semble absolument essentielle, et donc je ne considère pas qu'on puisse passer ce genre de questions graves, comme celle de l'antisémitisme, sous le boisseau. Maintenant, deux choses. Premièrement, sur le fait que je mêle la gauche et l'extrême gauche à tout ça. Une des raisons qui fait qu'on a beaucoup de mal à extraire justement le concept de fascisme de son contexte historique, c'est qu'on ne peut pas oublier qu'il y avait dans le fascisme italien, au départ, des liens très forts avec le syndicalisme révolutionnaire, avec la tradition socialiste, et que Mussolini et beaucoup des siens, c'était des gens qui, constatant que le prolétariat était définitivement nationalisé, ont estimé que les énergies révolutionnaires devaient être liées aux énergies nationales. Et donc, il y a eu, et là-dessus, Sternel, on peut avoir beaucoup de critiques dans le détail, mais il n'a pas complètement tort, si vous lisez les programmes fascistes de 1919, vous êtes complètement stupéfait. Là, je les ai sous les yeux, par exemple, suppression des banques, suppression des bourses, confiscation des revenus improductifs, abolition des dettes, éligibilité des femmes, abolition du Sénat, etc. Vous avez l'impression d'être face à des revendications anarcho-syndicalistes.
Mais
c'est pour ça qu'il y a un vrai problème.
Pour les nazis,
voilà. C'est un vrai problème parce que c'est pourquoi justement il faut distinguer le fascisme mouvement comme le faisait Liefelitsch et le fascisme régime, parce que le fascisme mouvement a besoin justement d'opérer cette espèce d'alchimie entre désaffectes révolutionnaires qui, du coup, vont être vidées de toute référence à l'égalité. Donc, ils vont prendre la forme d'un anticapitalisme indifférent à la question de l'égalité, indifférent à la question de l'état de droit et des droits, et qui vont, de ce coup, mêler des affects anti-système, hein, l'anticapitalisme se vide en anti-système, qui vont pouvoir, du coup, effectivement, se renverser dans une défense de la violence du capital, dans le racisme, dans un nationalisme exacerbé, etc. Ça, c'est le premier point, hein, c'est-à-dire que cette espèce ces points de départ, on ne les voit pas sous cette forme-là. Et je dirais que ce qui fait la grande différence, c'est qu'il y avait dans le fascisme historique une insistance très forte sur l'exigence d'une vie héroïque entièrement dévouée à la communauté et à l'État. Or, et du coup, il y avait un moment...
connecté à l'expérience de la guerre dont on parlait tout à l'heure.
Et d'autre part, quand vous lisez l'histoire du fascisme italien, vous dites l'impérialisme est un moment essentiel. Mmh. Bon, si vous tournez vers Trump, il a été probablement le président américain le plus hostile à l'OTAN, pas du tout impérialiste de ce point de vue-là, et il y a une dimension libertarienne dans cette espèce de néo-fascisme qui renvoie à une sorte de repli sur la sphère privée. Alors, quand vous lisez, par exemple, Paxton, il dit que...
L'historien américain
sur le fascisme, c'est très intéressant parce qu'il donne une définition de ce qui fait la différence entre fascisme et autoritarisme. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Et puis, il donne une définition du fascisme qui, en fait, ne contient pas cette différence. Mais il s'en passe. Mais il dit, quand on veut faire la différence entre fascisme et autoritarisme, le point essentiel, c'est que le fascisme ne tolère pas l'existence d'une vie privée ou d'une sphère privée. L'individu doit être intégralement politisé. Or, ce à quoi on assiste, c'est beaucoup plus à une forme de violence qui est fondée sur un repli sur la sphère privée, sur une exacerbation de l'égoïsme, beaucoup plus que sur le dévouement à la collectivité, et sur une tolérance très forte, disons, à la violence contre les perdants. Voilà. Or, c'est ça qui me semble faire la différence. Alors, maintenant, je pense qu'on peut quand même extraire, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu des fascistes qui ont dit on peut avoir un fascisme moderne qui n'a pas les caractères du fascisme historique. Je renvoie ici à une lecture désagréable mais étonnante et instructive, le bouquin de Maurice Bardèche de 1960, Qu'est-ce que le fascisme, qui prône un fascisme débarrassé des violences du fascisme italien et du nazisme. Et c'est un point tout à fait extraordinaire quand Bardèche se dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui en 59, puisqu'il écrit en 59 comme exemple de régime fasciste moderne. Il dit un Castro, hein, il dit, mais il y a un problème, c'est que Castro donne trop aux violences populaires spontanées, donc on peut craindre qu'il va basculer du côté du communisme. Et deux, Nasser. Nasser qui réussit à porter un projet fasciste, viriliste, et Bardèche se lance dans un éloge des potentialités fascistes qu'aurait l'islam, bien compris, tourné du côté du virilisme, de la conquête, etc., etc. Bon, alors, Bardèche délire. Mais le point qui m'intéresse, c'est ça. Non, parce que c'est quand même intéressant, parce que vous voyez quand même un fasciste qui dit, voilà, effectivement, on peut moderniser le fascisme, on peut même avoir un fascisme sans violence.
Oui.
Sans violence, sans impérialisme. Et du coup, pour le concept de Bardèche, Zemmour, ça tombe dedans. Ça tombe complètement dedans. C'est-à-dire que ce qui définit le fascisme, c'est le sens de la pureté, hein, le sens de la pureté, le sens de l'homogénéité nationale. En fait, ça correspond assez aux définitions que vous donnez au début de votre livre
Parce que l'État. Hein. Du coup, voilà. peut-être qu'on peut donner la parole à Ludivine sur le sujet, parce que vous parlez de régénération, quoi, l'idée de régénération du peuple. Mais sur cette question de la violence, de l'impérialisme, qui sont considérés par certains historiens comme des traits des fascistes de l'entre-deux-guerres, du coup, comment vous lisez la situation actuelle?
D'abord, pour revenir en effet à cette question dont débouche celle que vous venez de poser, c'est-à-dire, est-ce que la comparaison avec les années 20 et 30 est pertinente? Je suis absolument d'accord avec ce que disait Laurent Jean-Pierre tout à l'heure sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de comparer terme à terme et de considérer que les situations seraient proches, hein, elles diffèrent très, très profondément. Mais pour autant, moi je citerai par exemple Orwell qui indiquait que le fascisme, il peut revenir à tout moment et qu'il n'aurait pas forcément de chemise brune ou de chemise noire, mais qu'il pourrait porter des habits bien plus respectables avec le parapluie roulé sous le bras. Et c'est vrai qu'en fait, le fascisme peut tout simplement revenir sans s'appeler fasciste. Zemmour, il nous dit, mais non, fasciste, oh mais ben voyons, comme il le dit si bien. Et en fait, oui, il coche vraiment toutes les cases. Donc c'est pas parce qu'il y a un déni sur la caractérisation de fasciste qu'il faut se priver de la porter sur ces mouvements. Et je pense souligner vraiment, parce que la situation est, on l'a dit, très alarmante, que ça peut arriver vraiment très, très vite. Bon, ça, c'est une chose importante. Je citerai volontiers le très beau livre de Michael Fessel qui s'appelle Récidive, où il s'était plongé dans l'année 1938, et il parlait du fascisme comme d'un spectre. Il disait le propre d'un spectre, c'est d'être un être dont l'essence est de revenir, mais de manière métamorphosée. Et ça me paraît être une très belle image. De fait, il y a des groupuscules de plus en plus importants, y compris avec l'équivalent de chemise brune, quand on voit en Italie, hein, vous les avez vus, les rassemblements paramilitaires hein, de type milice, vous les avez vus attaquer, par exemple, le siège de la CGIL, l'un des principaux syndicats ouvriers. Donc, il y a des groupuscules qui se réclament absolument, officiellement, explicitement, de manière très assumée, du néofascisme, du néonazisme. Et d'ailleurs, c'est à Mediapart qu'on peut en parler le mieux, puisque c'est vous qui avez mis au jour notamment l'existence de filières néonazies dans l'armée française. Mais voilà, donc il y a l'explicitation assumée du fascisme, et puis il y a un fascisme qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même tel. Alors, ensuite, il y a une chose quand même que je voudrais récuser dans ce que vous dites, parce que bon, c'est un débat, et moi, ce que j'entends, c'est une musique que je trouve un peu dangereuse. Je m'explique par rapport à ce que vous avez dit, et puis ensuite en citant Bardèche, en disant qu'au fond, bah, Castro, Nasser pourrait tout aussi bien être assimilé.
Non, c'est lui qui dit ça. Moi, je dis pas ça.
J'entends bien. Je dis, vous citez Bardèche, mais la question, c'est pourquoi citez-vous Bardèche à cet égard, et pourquoi en fait insister à ce point sur le fait que l'anticapitalisme pourrait se transformer en un anti-système qui dès lors devient fasciste. Il y a une espèce de risque de la téléologie là, du chemin, de la finalité où en fait voilà des mouvements notamment ouvriers, des mouvements révolutionnaires se réclamant d'une alternative radicale au capitalisme auraient pour vocation quasiment déterminée de verser du côté du fascisme. Il faut quand même souligner, puisqu'on a parlé de Mussolini, que Mussolini s'est retourné contre ses camarades en les assassinant.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est un renversement non seulement à 180 degrés, mais par la persécution, par la violence, par la destruction. La marche sur Rome, c'est au moment même où les syndicats italiens appelaient à la grève générale. Donc les assassinats ciblés. Donc on peut pas considérer que voilà l'origine serait socialiste d'emblée, mais dès le Biennio Rosso, dès les années 1920, au moment même où les fascistes se créent, s'organisent et se déploient. C'est le moment où le patronat italien, appuyant cela par l'Église catholique, qui va en retirer le plus grand profit avec les accords du Latran, soutiennent financièrement les fascistes. Et c'est la même chose du côté nazi. Il y a donc très rapidement, les fascistes vont dire, tout comme les nazis, c'est le cas par exemple du ministre des Finances fasciste de Stefanis, c'est-à-dire, en fait, il faut surtout pas s'en prendre au capitalisme, ça serait de la folie furieuse. Donc très rapidement, tous les gages sont donnés aux différents patronats. Donc, on ne peut pas du tout insister sur la dimension supposément anticapitaliste du fascisme. Ça me paraît vraiment très dangereux. Moi, ce que je veux dire vraiment, c'est que, oui, il y a des traits de fascisation qui peuvent rapidement s'exacerber et que les responsabilités, en effet, vont bien au-delà du cas Zemmour, de cette espèce d'ailleurs de banalisation dès lors et de cette apparence de modération qui est attribuée, y compris à une Marine Le Pen. Mais ça, c'est une dimension à laquelle le pouvoir en place a très largement participé. Quand Gérald Darmanin s'oppose à Marine Le Pen en lui disant qu'elle est trop molle, évidemment que tout ça participe à cette dangereuse familiarisation avec cette violence politique. Et pour rejoindre ce que disait également Laurent tout à l'heure à propos de l'anti-antiracisme, ça m'a fait penser à Michel Onfray. Parce que Michel Onfray renverse complètement la perspective et en disant notamment que désormais il y a un apartheid anti-blanc, que le racisme principal serait supposément un racisme anti-blanc. Et c'est Michel Onfray qui aujourd'hui n'hésite pas à dire, à l'instar d'autres intellectuels qui jadis pouvaient vaguement passer pour de gauche comme Marcel Gaucher, que Zemmour, ben voilà, Zemmour, il faut l'écouter, qu'il a plein de bonnes choses à dire et qui sont des choses salutaires à leurs yeux. C'est très grave. Il y a cette diffusion, en effet, d'une hégémonie culturelle. Et peut-être qu'on parlera ensuite des alternatives pour
mais y passer. J'ai envie de dire que Marcel Onfray, que Michel Onfray, c'est un très bon exemple.
Oui, parce qu'il s'est dit anticapitaliste.
Parce que Michel Onfray, c'est un très bon exemple qui illustre exactement ce dont je parle. C'est un exemple prototypique. Le trajet de Michel Onfray.
Il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent.
D'un anarchisme officiel, d'un éloge de Proudhon. Oui, mais enfin, il écrivait dans le monde diplomatique, il était relié. Non, mais on est d'accord. Mais il était quand même fêté à gauche. Enfin, je me souviens encore de ses articles dans le Monde diplomatique, etc.
Et qui a fait le trajet.
Donc, je pense que c'est mon point. C'est pas du tout. Bien sûr que le fascisme est absolument pro-capitaliste. Le fascisme est à l'extrême droite. Il n'est pas à gauche. Il est à l'extrême droite. Il n'est pas socialiste. Mais la question, c'est quels sont les processus de fascisation? Et donc, on doit quand même, nous aussi à gauche, être vigilants sur tout ce qu'on peut appeler les points de départ de feu. Et voilà. Et pour ça, Michel Onfray, ça me semble vraiment, j'ai envie de dire, vous allez tout à fait dans mon sens en prenant Michel Onfray. Mais je vais quand même dire juste un mot sur cette question de qu'est-ce qui fait qu'on résiste à parler de fascisme, parce que la référence au livre de Michael Fossol est excellente. Il y a une chose très juste que dit Michael Fossol dans son bouquin. Il dit, finalement, l'objection qui fait qu'on résiste à parler du terme fascisme, c'est qu'on dit, il manque la mobilisation de masse. Voilà. Ouais. Bon. Et il fait cette remarque, il dit, mais en fait, nous passons notre temps sur nos smartphones. Et il dit, et qu'est-ce que nous faisons sur nos smartphones? Eh bien, c'est du pulsionnel branché sur du technique. Et c'est de la mobilisation. Et il me semble que là où on peut voir quelque chose qui effectivement justifie le terme de fascisme, c'est qu'un élément important du fascisme, c'est pas seulement le culte de la violence et de la sublimité de la violence. Je dirais, c'est aussi le projet de souder la communauté autour d'un lynchage. Voilà. Ça me semble un point décisif. De ce point de vue-là, la pratique de l'huile de ricin, dans le fascisme italien, elle est centrale pour comprendre le mécanisme du fascisme.
Avaler aux militants
socialistes, communistes, etc. Il s'agit d'humilier un adversaire, pas seulement de le réprimer, auquel cas on serait dans l'autoritarisme. Il s'agit de l'humilier, de déshumaniser et de souder la communauté autour du lynchage. D'un point de vue, si vous voulez, d'humour virtuel, vous trouvez ça dans les bandes dessinées de Marceau, par exemple. Les bandes dessinées de Marceau, c'est ça. C'est à chaque fois quelqu'un qui assène l'huile de ricin à des islamo-gauchistes, ou à des féministes. C'est la structure de ces bandes dessinées qui ont eu un grand succès à l'extrême droite, qui sont très vendues, qui sont très diffusées. Et là, je me dis, et c'est pareil, Papa Chito, la mise en scène d'une vidéo, vous voyez, alors avec cette invention de l'extrême droite actuelle qui est utiliser l'humour, je pense qu'il y a une utilisation de l'humour par l'extrême droite néo-fasciste qui joue un rôle absolument considérable. Et bien, à quoi on assiste? C'est, on assiste justement symboliquement à des administrations d'huile de ricin à des opposants, autour de mobilisation sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que la dimension néo-fasciste, elle est extrêmement sensible, en réalité, avec sa dimension de mobilisation.
Oui, je vais bien dire un mot au sujet de cette violence, parce que la violence, comme l'explique Michael Fossol, il y a un moment dans les années 20 et 30 où la violence, elle s'exacerbait dans la rue, dans la prise de la rue. Mais il y a d'autres formes de violence. Et en fait, Éric Zemmour appelle à la violence. Il dit, nous rejoignent de plus en plus des braves qui sont prêts à combattre et à se sacrifier pour la France. Mais à cet égard, en effet, c'est une politique du bouc émissaire, le migrant, l'étranger, le musulman, les musulmanes également. Et je pense qu'à cet égard, la responsabilité est quand même très largement partagée par tous ceux qui nous disent, qui font de l'obsession de l'islam depuis des années leur seul filon politique.
Alors, politicien, justement,
leur seul créneau.
Je laisse la parole à Ludine et après je vous fais réagir tous les deux sur parce qu'on parle du fascisme. Est-ce qu'un fascisme contemporain est possible? Vous répondez tous avec des nuances différentes que finalement oui. Ce qui est au cœur du livre, c'est le processus de fascisation, parce que dans le livre, vous le répétez bien, je le répète pour ceux qui n'ont pas été attentifs, vous dites bien, on ne vit pas encore, en tout cas, sous un régime fasciste, sinon on ne serait sans doute pas là à faire ces émissions. Mais ce que vous décrivez, et quand on parlait d'ensauvagement, c'était ce processus de fascisation. J'aimerais bien vous tout simplement peut-être l'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, ce processus de fascisation, en quoi il est lié et différent du fascisme, et puis je vous ferai réagir tous les deux sur cette notion.
Oui, en effet, ce sont des traits qui travaillent, qui infusent, qui deviennent de plus en plus familiers, acceptés, où les seuils de tolérance, en fait, se cassent un peu la figure, en fait. C'est ça aussi qui est grave. C'est justement face à tout ce qui se passe à l'égard des migrants, la violence jusqu'à la mort, et l'indifférence, en fait, la banalisation de ces morts généralisé. On a entendu récemment un ministre de l'Intérieur récuser le fait que les forces de l'ordre lacéraient des tentes. Mais bon, heureusement qu'il y a des reporters pour documenter très précisément cette violence, même si certains préfets voudraient interdire aux dits reporters, aux dits journalistes d'enquêter, de prendre des images, etc. Et à cet égard, évidemment, la loi sécurité globale est tout à fait décisive pour instaurer de plus en plus cet état d'exception qui se généralise avec une violence qui se banalise. Il faut parler du racisme de plus en plus structurel. Je pense que quand on est face à des lois qui suscitent peu de mobilisation, comme la loi séparatisme, qui vise à se focaliser sur les musulmans, là, on est face à un phénomène très grave, avec des dissolutions qui sont des dissolutions d'organisation. Ouais. Je pense au CCIF. Je veux dire, mais qui pourrait justifier, vous avez peut-être vu la justification, un signe en fait de la dissolution du CCIF, c'est vraiment un processus très dangereux. Le CCIF, c'était un collectif de juristes, d'avocats, défendant les personnes victimes d'agressions, de violences islamophobes. Et qu'on puisse dissoudre sans autre forme de procès et sans que cela suscite une mobilisation importante, ça me paraît très inquiétant. Ces traits de fascisation, ils sont liés à une violence structurelle qu'on peut, je crois, nommer une violence d'État. À partir du moment où les violences policières que des médias un peu mainstream ont fini par admettre, quand on a vu la violence qui s'abattait sur les opposants au régime, en l'occurrence le mouvement, le soulèvement populaire des Gilets jaunes, que Laurent connaît bien pour avoir écrit à leur sujet, quand on voit que il n'y a nul mot de compassion de la part du pouvoir face à ces dizaines de personnes qui ont été gravement mutilées, définitivement blessées. Quand on voit aussi que cette violence-là, ça faisait des années qu'elle s'abattait à l'égard de populations victimes elles-mêmes de discrimination raciste. Quand on voit que la police, une partie de la police, est de plus en plus sur une attitude factieuse, et ouvertement raciste. Je parle même pas du fait que 74%, d'après une enquête du CVPOF, du Centre d'études de la vie politique française, 74% des policiers d'active diraient tranquillement qu'ils votent pour le Rassemblement national. Mais je pense, par exemple, à ce que nous avait donné à entendre le documentaire de Arte Radio, rendant compte dans un commissariat de Rouen, des discussions banales, où il est question de négresse, de youpin, de bico, de guerre raciale, du fait qu'il faut s'armer, qu'ils sont en train de s'armer, ces policiers. Et quelques jours plus tard, un commandant de police, sous le sceau de l'anonymat, vient expliquer sur une station de radio importante, de service public, que ce n'est pas une dérive, que ce ne sont pas des brebis galeuses, que c'est quelque chose de structurel. Quand on a des tribunes factieuses, qui parlent des hordes de banlieue, qui parlent du... Voilà, tout ça, c'est guerre raciale, guerre de civilisation. Je pense que, encore une fois, il faut aussi revenir à la façon dont cette hégémonie culturelle autour du bouc émissaire migrant étranger musulman a très largement débordé la sphère de la droite et de l'extrême droite classique. Voilà, je pense par exemple.
Et conquérir l'État, parce que ça, c'est un argument du livre, qu'au fond, l'appareil d'État est configuré pour servir.
Au point que le président de la République lui-même puisse accorder une interview exclusive à Valeurs Actuelles, pourtant condamnée pour ses raisons de racisme, d'incitation à la haine.
Jean-Yves Pontier, je vous donne la parole sur. Peut-être, vous disiez tout à l'heure, on a vu que vous aviez des divergences, mais qu'en tout cas, ce processus de fascisation, il vous intéresse.
Non, mais la notion de processus de fascisation, je la trouve bonne. C'est-à-dire que ça permet justement de ne pas parler de fascisme quand on n'est pas confronté à du fascisme, mais de désigner des processus dangereux et qui peuvent embrayer sur des processus de radicalisation beaucoup plus forts. Alors après, tout le problème, c'est aussi la question de la demande populaire, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tomber dans une démonologie où finalement ce serait une violence d'État qui descendrait comme ça, comme si le fascisme partait jamais du bas. Hein, je repense à une phrase de Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe qui disait « on comprendra pas le fascisme ». Donc on ne comprendra pas pourquoi les masses ont désiré le fascisme.
Oui, mais il faut interpréter cette phrase.
Oui, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et on ne peut pas l'obturer non plus complètement, puisqu'après tout, il y a une spécificité française. Enfin, regardez l'Allemagne aux dernières élections, il n'y a pas eu de discussion sur l'islam. C'est pourquoi je suis un peu insatisfait des explications par l'ensauvagement du capital, parce que Mme Merkel, c'est vraiment quelqu'un qui mène une politique pro-capitaliste. Elle a été capable d'accueillir 1 million de réfugiés en Allemagne.
Dans quelles conditions pour les faire travailler travailler comment.
Non, oui, je sais, ça, c'est le discours classique. Mais bon,
non, c'est pas un discours, peut, oui. Non, c'est une réalité sociale oui, terrible.
On aurait pu aussi ne pas les prendre et on pourrait les continuer.
Vous savez que c'est du travail gratuit qui est exigé de ces personnes. J'espère que vous ne voyez pas ça comme de la pure rhétorique. C'est une réalité qui touche des gens.
Non, mais on aurait pu aussi faire comme on fait, et comme fait le reste de l'Europe, les abandonner à Bachar el-Assad. Oui, je suis d'accord.
Non, mais c'est quand même. Qu'il y a un accueil
mais oui, mais c'est quand même ça le problème. Il n'est pas purement généré magnanime, mais il y a un accueil. Ça ne rentre pas dans le cadre du concept de processus de fascisation. Donc, je pense qu'il faut quand même être très attentif. Voilà. Donc, on peut pas se lancer dans un tableau, disons. Alors, la situation française est effectivement très dure. Ça, je suis d'accord. La France va très mal de ce point de vue-là, et c'est un pays qui est manifestement beaucoup plus avancé que d'autres dans la voie de la tentation autoritaire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la situation électorale. Enfin, concrètement, massivement. L'électorat plébiscite une forme de nationalisme autoritaire plus ou moins dur. Donc on est effectivement dans une situation très délicate, mais je ne pense pas qu'on puisse expliquer cette situation par des analyses non différenciées. On a besoin d'analyser des contradictions sociales, des dynamiques contradictoires, une dynamique du capital, une dynamique de la démocratie, même plusieurs dynamiques de la démocratie, même plusieurs dynamiques du capital parce qu'il y a différentes formes de capitalisme. Voilà, et que donc il faut quand même résister à la tentation du tableau où on accumule des faits de gravité très différente, parce que l'adhésion de le vote Front National dans la police, les violences policières, c'est très grave. L'interview du président à Valeurs Actuelles, je veux dire, bon, Mitterrand faisait fleurir la tombe de Pétain tous les ans, voilà, enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est assez classique. Donc, je trouve qu'il ne faut pas mettre des choses de niveau différent au même niveau.
Je donne la parole à Laurent Jean-Pierre, développer comme vous le souhaitez, mais j'aimerais quand même vous entendre sur l'aspect différencié, justement, c'est une des questions que j'avais envie de vous poser à tous les trois, d'ailleurs, sur la singularité du cas français, parce que on peut se dire, bon, effectivement, la situation est grave. En même temps, on voit aussi une extrême droite au pouvoir. Si je reste dans le domaine des démocraties, entre guillemets, pluralistes, on a l'extrême droite au pouvoir en Inde. On a eu l'extrême droite avec Trump au pouvoir aux États-Unis, quand même la première puissance mondiale. Donc, qu'est-ce qui fait elle est forcément singulière, la situation française, c'est une palissade, mais qu'est-ce qui fait sa singularité?
Oui, c'est difficile à dire parce que je suis d'accord, c'est un phénomène mondial. Je crois que c'est des phénomènes qu'il faut analyser à l'échelle mondiale et pas simplement à l'échelle nationale. On l'a dit, crise économique est quand même effectivement une toile de fond à partir de laquelle il est difficile de pas penser, parce que c'est vrai que cette crispation, Ludivine en a parlé, en l'absence de consentement, il y a une crispation violente des pouvoirs à partir du moment où il y a des mouvements sociaux successifs qui n'ont pas cessé depuis 2008, qui ont cessé depuis la pandémie, mais qui en réalité sont constants depuis la crise financière de 2007-2008. Et donc ça, c'est un point qui est présent dans plusieurs régions du monde. Le deuxième point, c'est qu'il y a une crise des démocraties représentatives qui fait que effectivement le système de parti ne canalise pas du tout, disons les différentes aspirations qui peuvent s'exprimer dans la population. Et du coup, il y a de la place pour des démagogues, néofascistes ou pas, de toutes sortes, dans plein de systèmes politiques. Et puis il y a un troisième point qui a pas été mentionné, c'est le point effectivement, qui est mentionné largement dans le livre dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire la question du processus de fascisation, c'est pas simplement une question, idéologique ou une question d'hégémonie culturelle. C'est aussi une question de glissement autoritaire des démocraties à travers un certain nombre de procédures législatives, de réduction des libertés publiques, un glissement qu'on voit là aussi depuis 10 ans et qui s'est accéléré pendant la pandémie et donc dont on hérite aussi, qui fait qu'effectivement les garde-fous ou en tout cas les possibilités de s'adosser, disons, à des droits contre effectivement cette brutalisation, cette banalisation des idées de la violence verbale ou physique, effectivement sont de moins en moins nombreux, et donc les possibilités aussi de mobilisation dans l'espace public sont de moins en moins nombreuses. Donc tout ça, ça fait un ensemble de phénomènes convergents qui existent dans d'autres zones. Il faudrait les caractériser du point de vue justement de cette double crise économique et démocratique. Moi, j'ai tendance à croire que ça a à voir quand même avec il y a effectivement la question du nativisme qui existe dans plusieurs pays, et il y a la question effectivement aussi de la position dans le système monde capitaliste. C'est-à-dire qu'on est dans des pays qui sont tous dans des positions critiques, semi-périphériques, en déclin, c'est le cas aussi des États-Unis.
Et donc, il y a une différence par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'exemple que
vous avez donné. Et du coup, effectivement, dans ces pays-là, le nativisme est très puissant. Il y a un déclassement à la fois des nations et un déclassement d'une partie des populations dans ces nations qui est effectivement un ferment extrêmement fort de cette fascisation.
On arrive vers la conclusion de l'échange. Déjà, je voulais quand même terminer sur la nature de l'antifascisme à opposer opposée à ce processus de fascisation. Ludivine, je repars sur l'ouvrage où la gauche, on en a un peu parlé du coup, mais la gauche apparaît assez tardivement quand même dans l'ouvrage, à partir du constat de sa crise essentiellement, et en même temps, vous portez un antifascisme qui est assez exigeant, au sens où, vous l'avez dit, il doit être anticapitaliste, mais pour le coup, dans un sens, dans un horizon d'égalité, c'est très clairement affirmé dans le livre. Mais là où vous nous laissez un peu sur notre faim, c'est sur les fronts à opposer au fascisme. Parce que, évidemment, si on se repart dans les années 20 et 30, qu'on ne revit pas tel quel, à l'époque, il y avait des controverses. Est-ce qu'il faut faire un front populaire avec des bourgeois? Est-ce qu'il faut faire un front prolétarien sans les bourgeois parce que, quelque part, c'est des mauvais opposants au fascisme, voire ils lui pavent la voie, comme peut-être ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Donc, vous, à partir de cette lecture-là, de cette grille de lecture anticapitaliste, en fait, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon stratégique? C'est-à-dire, à partir d'où, enfin, jusqu'à où on peut faire des fronts? Est-ce que ça dépend purement de la conjoncture? Est-ce qu'il y a des lignes rouges? Comment vous diriez?
Oui, mais je répondrai à cette question qui est très vaste. Évidemment, ouais, j'aurais pas du tout la prétention d'élaborer ici un projet politique ou un programme. Mais je repartirai de ce qu'a dit Laurent à propos de la démocratie. Et d'ailleurs, ce que disait Michael Fessel à propos de l'année 1938, disant, la France était à cette époque une démocratie faible. Une démocratie faible qui procédait beaucoup par décret-loi, etc. Et c'était déjà le cas de la République de Weimar qui a conduit à la prise de pouvoir des nazis. Pense qu'on est vraiment face à un grand affaiblissement de la consistance démocratique des supposées démocraties. Dans le livre, avec Hugo Paletta, on parle de démocratie capitaliste, pas seulement de démocratie libérale, mais de démocratie capitaliste qui sont, à nos yeux, d'emblée tronquées par le fait qu'elles se situent dans un système capitaliste où, en fait, justement, il n'y a pas de pouvoir au peuple. L'étymologie du mot n'est pas du tout respectée, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas délibérer, on ne peut pas décider de ce qui nous tient le plus existentiellement et d'un point de vue collectif, ce qu'il s'agit de produire, c'est quels sont les besoins, comment travailler, comment consommer, comment partager les richesses, etc. Alors ces démocraties sont d'emblée extrêmement abîmées à nos yeux, et abîmées a fortiori quand de grands groupes capitalistes justement possèdent l'essentiel des médias et peuvent construire, fabriquer des figures idéologiquement extrêmement dangereuses. Pour répondre ensuite à votre question, je pense qu'il faut des projets désirables. Voilà, il faut des projets désirables face à une crise qui est en effet très grave, voire monstrueuse, par exemple, ce que produit l'écocide, la destruction du vivant, qui a des conséquences sociales terribles, qui va exacerber encore la menace fasciste, ne serait-ce que par la nécessité des migrations climatiques, etc. Donc tout est lié. Donc il faut un projet désirable, il faut un projet émancipateur, il faut un projet de justice sociale, parce que sinon, en effet, sinon il y a toujours l'idée de se dire, décidément, les gouvernements qui se prétendaient de gauche ont mené une politique de droite, ont mené une politique extrêmement violente. Bon, mais qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On va aller voir du côté de Marine Le Pen, voir d'Éric Zemmour, par un nationalisme autoritaire compensateur de la désolation. Arendt parlait de la désolation, pour parler de ces moments où le fascisme... Voilà. Il y a une désolation, il y a une détresse face à l'idée que les démocraties sont évidées. Elles sont énervées au sens strict, on leur a retiré les nerfs. Et donc, juste pour répondre à la question, moi je pense que, en effet, il n'y a pas de vraie démocratie dans le cadre capitaliste, mais il faut faire des alliances avec toutes celles et tous ceux qui le pensent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, soit qui pensent qu'il faut arrêter l'expansion du capital, il faut la stopper, il faut retrouver des vies justes, bonnes, dignes. Et donc, voilà, des gens qui pensent qu'on peut faire des réformes, qu'on peut freiner cette logique de généralisation du capitalisme. Autrement dit, par exemple, le programme de la France insoumise, d'Union populaire, etc.
Certains écologistes aussi.
Bien évidemment, qui de plus en plus sont amenés à reconnaître qu'il n'y a pas de véritable écologie sans anticapitalisme, mais qui vont considérer que ça passe par des réformes, etc., par des mesures qui vont permettre ce frein. Moi, je pense pour autant que d'un point de vue politique, il faut être honnête, sincère, loyal à l'égard des mesures qu'on avance. C'est-à-dire comment, à quelles conditions de possibilité imagine-t-on réaliser ces mesures? On nous dit on va réduire l'écart des salaires. De 1 à 20, par exemple, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Comment? Par la loi? Par la fiscalité? Si c'est la loi, on sait que les entreprises la contournent toujours. Et dès lors, j'entends même un très bon économiste qui travaille à Mediapart, qui dit, pourquoi pas la socialisation de ces entreprises si elles ne respectent pas la loi? Ah bah oui, mais alors là, on n'est plus dans la réforme. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus radical et structurel. Je pense que les réformistes conséquents sont des révolutionnaires qui
s'ignorent.
Parce qu'il y a un moment où, justement, la question, c'est est-ce que des réformes sont encore possibles aujourd'hui? C'est une question vraiment sincère. Moi, je ne pense pas, parce que le bulldozer en question, alors déjà qu'on l'avait vu au début des années 80, ce réformisme, il avançait par vent contraire et du coup, il s'est justement retourné globalement en contre-réforme. Mais a fortiori, justement, à un stade... du capitalisme néolibéral à l'expansion généralisée.
Alors, pour les dernières prises de parole avec Jean-Yves Poncher, sur la nature de l'antifascisme et ce rapport à l'anticapitalisme dont parlait.
Je pense que la nature de l'antifascisme, c'est d'abord d'être une défense de la démocratie et de ce point de vue-là, de tenir à l'unité du sens du mot démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle existe dans des processus de démocratisation. On peut considérer que la vague néolibérale et néoconservatrice a produit une déconsolidation de la démocratie ou une dédémocratisation, comme le dit Wendy Brown. Mais ça suppose effectivement que l'on mène des politiques de démocratisation et ce qui suppose des politiques de défense des droits sociaux et de l'égalité sociale. Alors, je dirais trois choses, là, simplement, parce qu'on a plus le temps. Je dirais, d'une part, centralité de la question écologique, parce que la question écologique est vraiment le mur sur lequel nous risquons de nous briser, et c'est donc la question qui peut être la plus fédératrice, parce qu'elle montre très clairement les limites du modèle de développement dans lequel nous nous tenons. Je dirais, mais ça, Laurent Jean-Pierre le dira aussi, et j'ai beaucoup apprécié ses interventions à ce sujet dans Ballast, centralité du féministe et de l'antivirilisme et du refus du discours masculiniste, qui est quand même un des éléments absolument centraux de la vague ultra-conservatrice, nationaliste, autoritaire actuelle. Je dirais à partir de ces deux questions, je pense que le programme, je renvoie au livre de Serge Audier, je renvoie au livre bientôt à paraître de Paul Magnette, je pense que la proposition désirable, c'est celle d'un écosocialisme. Le problème étant que autant cet écosocialisme est pour ainsi dire un besoin objectif de nos sociétés, autant il ne correspond pas aux demandes, et ici il ne faut pas sous-estimer la réussite de la révolution néolibérale qui a effectivement transformé les subjectivités individuelles et transformé les individus en entrepreneurs de soi, qui contestent le néolibéralisme dans des termes assez néolibéraux, très souvent. Et je dirais, troisième point, nécessité de se poser la question des conditions de la lutte à l'échelon européen. Quelles alliances à l'échelon européen? Quelles mesures dans le cadre européen? Qu'est-ce qu'il est possible de réaliser? On citait les propositions de Godin. J'ai entendu récemment une proposition de l'économiste Éric Gilles, tout à fait intéressante dans le cadre européen, qui disait on pourrait très bien envisager, par exemple, une taxe punitive contre les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de conditions écologiques et sociales et ce qui les mettrait en situation de désavantage sur le marché. Alors je pense qu'on a intérêt à se saisir de toutes ces propositions de réforme qui nous permettent d'avancer, qui sont réalisables sans qu'on ait besoin d'une épreuve de force ou d'une rupture pour laquelle nous n'avons tout simplement pas les troupes. Les troupes sont à droite.
Mais elles vont accepter tranquillement ces entreprises? Vous pensez que le capital, va se laisser faire?
La Commission
européenne vient de prendre position pour le fait que livreurs, voitures, vélos, etc. soient considérés comme salariés des plateformes numériques. Oui. Donc on peut faire des choses.
Oui, on peut.
L'épreuve de force, on est quoi? On est 100 face à une majorité.
Il faut pas se mentir sur l'idée qu'il y aurait des réformes profondes, radicales et qui modifieraient les structures même de ce système tel que vous les appelez de vos voeux pour l'écosocialisme sans épreuve de force.
Il faut pas se mentir
sur la question de l'épreuve de force.
Allez, je laisse le dernier mot. Alors, un peu par hasard, c'est pas une volonté à l'enjeu.
J'ai pas de programme anticapitaliste ni éco-socialiste général à proposer. Je crois qu'il faut commencer, en tout cas si on parle d'antifascisme et seulement d'antifascisme, par un programme plus modeste. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'accorder déjà sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à gauche des gens qui sont pas d'accord avec ce que seraient effectivement des valeurs antifascistes minimales. C'est-à-dire la lutte contre le racisme, le féminisme, la défense du vivant. Il y a effectivement une partie de la gauche qui n'est pas complètement réunie autour de de ces trois thèmes. Pour moi, ces trois thèmes sont déjà un socle antifasciste absolument fondamental. Donc il y a un travail idéologique, effectivement, d'unification de la gauche, qui est absolument pas réalisé, et qui, effectivement, bute sur une fragmentation, sur aussi, une sorte d'hystérésis des idéologies, qui fait que, effectivement, des nouvelles causes sont inacceptables, etc. Après, il y a un étage organisationnel qui était celui qui vous intéressait probablement le plus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer effectivement des partis antifascistes, des alliances, des coalitions antifascistes, etc. Moi, je crois qu'on en est extrêmement loin. Alors pour des raisons qui ont été dites, pas de force, mais aussi parce que effectivement, on n'est plus du tout dans un système où ce seront les partis qui vont mener l'antifascisme. Je pense que l'antifascisme passera par d'autres voies, notamment les voies d'approfondissement démocratique, de démocratie locale ou de démocratie réelle, dont on a un peu parlé. Et puis il y a un troisième étage qui a été évoqué en passant tout à l'heure. Qui est un étage qu'on pourrait appeler éthique ou un étage dispositionnel, qui est effectivement que le problème du fascisme, c'est pas simplement un problème idéologique ou culturel, c'est effectivement un problème comportemental, c'est un problème d'éthos. Il y a du microfascisme au-delà des formations fascistes. En fait, il y a des comportements autoritaires dans plein de lieux qui sont pas des lieux disons de production d'idées fascistes. Et ça, je pense que effectivement, on peut pas lutter contre le fascisme en reproduisant disons des types de comportements qui sont ceux effectivement qu'on trouve dans les formations fascistes. Donc ça, c'est un point absolument fondamental, c'est-à-dire nettoyer, une partie de la gauche du microfascisme qui l'a gagné, ou effectivement de pulsions fascisantes qui l'ont gagné. Et sur ce point, effectivement, là je suis d'accord avec l'analyse de Deleuze et Guattari, il y a du désir de fascisme, il y a un étage pulsionnel dans le fascisme qui est effectivement ce contre quoi il est le plus dur de lutter, mais c'est le, à mon avis, le préalable à toute autre lutte.
Sur la démocratie, même le Rassemblement national s'en réclame, fait partie d'un groupe parlementaire au Parlement européen qui s'appelle Identité et démocratie. Donc, en effet, il ne faut pas juste brandir le mot de démocratie, mais vraiment revenir à sa consistance et à sa justesse. Une démocratie vraie, qui ne soit pas abîmée par une logique systémique, disons.
Bon, là-dessus, sur une conception exigeante de la démocratie, je pense
on
que
tout le monde sera d'accord.
Je vous remercie tous les trois. Merci pour ce débat qui est donc à prolonger, vous l'aurez compris. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Face à la menace fasciste. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Je vous donne rendez-vous, évidemment, sur mediapart.fr pour tous les autres grands entretiens.